Lizzie présente Cœur du Sahel de Djaïli Amadou Amal, lu par Claïna Clavaron. Cette œuvre est une fiction inspirée de faits réels. À Pabé Mongo, dont l'accueil dans le cercle de la nouvelle littérature camerounaise, Nolika, reste à jamais en moi. Aux femmes victimes du Sahel. C'est souvent lorsqu'elle est la plus désagréable à entendre qu'une vérité est le plus utile à dire. André Gide. Première partie. Le chemin de l'espoir. Dans toutes les larmes s'attarde un espoir. Simone de Beauvoir. Chapitre 1. La matinée est à peine entamée. Le soleil déploie déjà sa toile écarlate, laissant augurer une journée caniculaire. Peut-on s'attendre à autre chose à cette période de l'année? La saison des pluies n'est qu'un lointain souvenir. Le mois de janvier tire à sa fin, emportant avec lui les dernières brises fraîches, ultime répit avant les grandes chaleurs. Les champs s'étendent jusqu'au pied de la montagne et les épis secs de sorgho qui jonchent le sol accentuent la teinte dorée du paysage. Les maigres feuilles, encore accrochées aux acacias, ont jauni depuis longtemps, tout comme les herbes brûlées par le soleil. Des tiges de mil, dépouillées de leurs grains, sont encore debout, chancelantes, mais fermement ancrées dans la terre nourricière. De la montagne, on distingue les rochers gris qui veillent sur le village comme de grands chiens. Condem a le visage fermé. Les plis qui se dessinent sur son front sombre laissent deviner une humeur morose. En silence, elle arrache les dernières gousses de haricots niébés, passant sa colère sur la terre desséchée. L'adolescente qui travaille à ses côtés ne se laisse pas démonter par l'air renfrogné de sa mère. Elle aussi frémit d'énervement, lui tenant obstinément tête, décidée cette fois à obtenir gain de cause. 4 mois ont passé depuis les dernières pluies. 5 autres devront s'écouler avant que la moindre goutte d'eau ne tombe de ce ciel désespérément clair, si clair qu'aucun nuage n'offre un rempart contre la fureur du soleil. La terre sèche se craquelle. Résiste, s'obstinant à protéger ce qu'il reste de son précieux trésor. Se redressant d'un coup, Condem lance avec rage la bassine qu'elle tient à la main. Un lézard file sans demander son reste. Les gousses de niébé d'un jaune tendre se dispersent dans l'air avant de disparaître dans les herbes sèches. Au loin, un chien aboie, brisant le silence des matinées de plus en plus calmes dans ce village, perdu au cœur de la savane. Depuis que sa fille lui a fait part de son intention d'aller travailler comme domestique à Maroua, la métropole régionale distante d'une 50 kilomètres, après un instant d'effarement, Condem a plongé dans le désespoir, puis cédé à la colère, sans que l'adolescente renonce à son projet. C'est la première fois que Faïdé ose la défier, et le sujet sensible qui les oppose bouleverse Condem, à la grande surprise de sa fille, qui ne comprend pas pourquoi ce qui semble la norme ici devient un motif de discorde pour sa mère. Les mains sur les hanches, comme pour se donner une contenance, celle-ci s'écrie d'une voix aiguë « Je ne te laisserai pas y aller !»« Tu devrais pourtant t'y résoudre, on n'a pas le choix !»« Bien sûr que si !» Agacée de devoir encore émettre des arguments que sa mère ne connaît que trop bien, Faïdé pousse un soupir. « Dada, regarde autour de toi. Il n'y a plus rien ici, rien à attendre ou à espérer. De plus en plus de personnes s'en vont, le village se vide, toutes mes amies d'enfance travaillent déjà en ville. Je suis la seule de mon âge à être encore ici.
Ce n'est pas une raison. Je veux autre chose pour toi.
Quoi ? Que veux-tu pour moi de si différent ? Qu'est-ce que tu peux faire ?
Elle se toise un instant. Même silhouette menue, elles ont la même taille désormais. Même teint sombre, bien que celui de la fille paraisse plus doré. Mais le poids des difficultés et l'amertume qui pèsent implacablement sur la mère ne sont pas encore perceptibles chez la fille qui semble n'être qu'insouciance. Elles ont le même caractère déterminé. Aucune ne baisse les yeux. Une étincelle de colère et d'impuissance traverse le regard de Condem et trouve écho dans celui de Faïdé qui retient ses larmes.
Je t'ai quand même envoyée à l'école.
Je n'y vais plus depuis 2 ans.
Je trouverai une solution. Je n'ai pas fait tous ces efforts pour que tu finisses domestique comme je l'ai été moi-même.
Je n'aurais pas dû t'en parler. Je serais partie discrètement comme les autres, ça aurait été mieux.
Sans un regard, Faïdé récupère à la hâte la bassine, ramasse les gousses de haricots et tourne les talons, laissant sa mère désemparée, atterrée. Elle est déterminée à partir, que Condem soit d'accord ou non. Sa décision est prise. Cette fois, Srafata, Dana et Bintou ne retourneront pas en ville sans elle. Si elle a vécu ses premières années à Maroua avec sa mère, alors domestique dans une grande concession, Faïdé n'en garde plus aucun souvenir. On appelle concession, au Cameroun septentrional, une maison où habitent tous les membres d'une famille et qui est délimitée par des murs ou par une palissade. Ce que Faïdé connaît de cette ville mythique, elle le tient surtout des commentaires de ses amis qui en reviennent à chaque fin d'année, les mains pleines de provisions très utiles pour les villageois. Savon, poisson séché, sel, sucre, allumettes, pétrole ou même des comprimés de paracétamol et de quinine. Mais elle rapporte surtout de nouveaux pagnes, des bijoux, des chaussures qui allument des lueurs de convoitise chez celles qui sont restées au village. Le soir, à la lueur des feux de bois, elle raconte dans de grands éclats de rire leurs aventures. Et le jour de Noël, elles revêtent leurs nouveaux pagnes. Comme elles sont élégantes, rabattant parfaitement leur oie carré, ce deuxième pagne qui vient compléter leur tenue, comme seules savent le faire les citadines. Leurs chaussures à talons leur donnent une démarche un peu guindée, mais gracieuse. Et leur maquillage, si sophistiqué, les rend exotiques. Ces filles qui travaillent en ville, comme elles sont décomplexées, sûres d'elles, Faïdé les envie. Les fêtes de fin d'année ne sont plus qu'un souvenir. Les réjouissances, tout un mois de chants, de danses et de veillées, sont de moins en moins longues, déclinant au fil des ans. C'est le signe peut-être le plus tangible que les choses changent. Les temps de l'insouciance sont révolus. Le village s'est encore vidé davantage de sa population la plus jeune et la plus forte, partie à la recherche d'une vie meilleure ou seulement de quoi survivre. Ils ont abandonné les champs à leurs parents, leurs épouses et leurs jeunes enfants qui n'ont pas la force de les cultiver. Mais s'ils en avaient la force, ils ne pourraient pas pour autant influer sur le changement de climat. Même avec beaucoup de volonté, on ne peut pas faire tomber la pluie. Le climat est de plus en plus aride, la terre de plus en plus sèche, appauvrie, épuisée. Et trop de bouches à nourrir. Tous partent en ville, de plus en plus loin, de plus en plus longtemps. Même les amis de Faïdé ne s'attardent plus et, cette fois, elle est bien décidée à les suivre. Adossée à la palissade, Condem observe sa fille qui ne l'a pas vue rentrer. Faïdé est assise, pensive, sur un tabouret dans la cour alors que ses frères jouent autour d'elle. Depuis qu'elle lui a fait part de son projet, Condem a la pénible impression de revivre un cauchemar enfoui durant des années. Quel retournement de situation! Quelle ironie du sort! Elle-même n'a-t-elle pas vécu tout cela? N'a-t-elle pas tenu tête à sa propre mère pour s'en aller en ville? N'a-t-elle pas eu ses rêves d'évasion et de vie meilleure? Et surtout, n'a-t-elle pas dissimulé aux autres, restés au village, les réalités de la ville trop dures à entendre? Elle sait au fond d'elle-même que, peu importe ce qu'elle dira à l'adolescente entêtée, celle-ci ne voudra rien savoir.